Y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama avec du bon et du moins bon aujourd'hui, Manu.
Bonjour, oui, on peut dire ça.
Eh hein. Oui. Alors, ça va être quoi le bon ?
Le bon, bah, c'est le nouveau film d'Éric Judor, en fait, sa première réalisation en solo avec Problemos. Et le moins bon, c'est l'adaptation de la légende d'Excalibur, le roi Arthur, par Guy Ritchie.
Et qui sort le 17 mai sur les écrans. Il y a un film qui est sorti depuis un petit moment, c'est De toutes mes forces. Il est sorti depuis déjà le 3 mai, mais on a pu rencontrer le réalisateur Chad Chenouga. Et comme c'est un très bon film, et avec une Yolande Moreau, eh bien, on va écouter le réalisateur.
Souvent, Yolande, avec son accent comme ça, elle me dit « Ah, moi, je suis là pour faire tourner la baraque ».
Voilà, ça, c'est un petit extrait donc, de cet entretien qu'on a pu avoir avec lui. Marine nous parlera d'Une famille heureuse, film georgien. Bon, film georgien qui sont assez rares quand même sur les écrans. Et puis, aujourd'hui, eh bien, c'est le jeu aussi avec Alien, un blind test sonore spécial Alien. Il faudra, eh bien, à partir d'un extrait que l'on vous fera entendre, eh bien, donner le nom du film Alien correspondant. C'est Cinérama qui débute avec la comédie française.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
De toute façon, c'est pas la peine de s'exciter. C'est les seuls, il n'y a plus personne sur Twitter. Ceux qui restent, ils font que parler de pain de mie, ça me fait chier, tu vois. Pain de mie chimique. Attends, en plus, regarde comment ils écrivent pain de mie. Ils font même plus d'efforts d'orthographe sur Twitter.
Non mais Victor déteste Twitter.
Faux, j'ai des Twitter.
C'est clair que c'est chimique, le pain de mie, mais dans ce cas-là, on mange plus rien.
Alors, attends, pandémie.
Pardon ?
C'est pas pain de mie ? C'est pandémie.
Quoi ?
C'est une putain de pandémie.
Non, mais c'est pas vrai.
T'es débile toi.
Une pandémie, c'est
elle
une pandémie.
Débile, elle est débile. Problème.
Alors il s'agit bien d'un film de fin du monde, hein, mais nous sommes pas chez Roland Emmerich ou dans Walking Dead. Hein. Alors, de retour de vacances, hein, Jeanne et Victor font donc une halte pour saluer Jean-Paul, hein, un ami qui vit dans une communauté ex-prof de yoga de Jeanne. Alors Jean-Paul, sorte de gourou sympathique, et ses amis se livrent à une bataille acharnée mais pacifiste pour empêcher la construction d'un parc aquatique. Intrigué, le couple, accompagné de leur petite fille, décide de rester quelque temps sur place jusqu'au jour où tout bascule, lorsqu'ils apprennent qu'une pandémie a eu lieu, les laissant alors seuls, presque, sur Terre à leur triste sort. Enfin, triste sort. Du coup, la communauté se retrouve avec la possibilité de changer réellement le mode de société, de revenir à des valeurs plus saines, de reconstruire un avenir possible. L'utopie peut devenir une réalité. Mais l'humain reste l'humain et rien ne va se passer comme prévu, ou plutôt si, même avec la meilleure volonté du monde, l'homme reproduit les mêmes erreurs. C'est le petit message, on va dire, pessimiste, mais bon, mais plutôt bon enfant de cette excellente surprise. Alors bienvenue donc chez les zadistes, néologisme pour désigner des militants engagés dans la protection d'une zone à défendre ou zone d'aménagement différé, déclinée sous le nom de ZAD, auquel on ajoute donc le préfixe "-iste". Là, c'était pour la petite information culturelle.
Petite précision.
Voilà. Bon, pour simplifier, il s'agit en tout cas de néo-hippies décidant de vivre avant tout en communauté et remettant en cause les fondements même de notre société ultralibérale. Alors, le risque de traiter un tel sujet, hein, même sous la forme d'une comédie potache, est de sombrer dans la caricature et de s'adonner à un petit jeu de massacre sardonique à la limite de la beaufrie. Alors le défi pour Judor, hein, et puis sa scénariste qui est aussi l'une des interprètes du film, dont c'est d'ailleurs la première réalisation sans Ramzi Bedia, était de livrer une comédie délirante, assumant pleinement son caractère régressif, sans tomber dans un discours réac propre à une grosse majorité des comédies made in France traitant de sujets d'actualité. La mission est accomplie en grande partie. Hein. La réussite de Problemos tient en premier lieu dans le rôle taillé sur mesure qu'endosse Judor lui-même, celui d'un petit bourgeois cynique et opportuniste, incapable d'être à l'écoute des autres, autocentré et effrayé par le changement. Alors ce personnage, hein, drôle au demeurant, invalide toute idéologie conservatrice envers une certaine frange de la population militante et marginale. Il y a aussi chez Judor une absence d'ego surdimensionné qui fait plaisir. C'est-à-dire qu'il laisse vraiment beaucoup de place aux autres. Il est même un peu en retrait. Il n'envahit pas du tout l'espace comme le font bon nombre de pseudo-comiques qui passent à la réalisation et qui se mettent en scène et qui, on l'a vu hein, tout au long de...
Danny Boone, tu penses ?
Oui, je pense à Danny Boone et puis à tant d'autres, en fait. Mm. Hein. Et même des très bons, hein, comme Pierre Richard. Hein. Si Pierre Richard, lorsqu'il était réalisateur, c'était lui la vedette de ses films. Et on le voyait de tous les plans. Alors, face à l'indigence hein, de la production française en matière de gaudriole, hein, problémo, sans atteindre l'audace libertaire des récents Apnée ou La Loi de la Jungle, hein, se déguste comme du petit lait et offre un vrai bol d'air frais. Hein. Le regard de Judor n'est jamais condescendant, mais plutôt bienveillant vis-à-vis de ces 12 illuminés dont il croque aussi avec malice et travers. Il développe un comique de situation loufoque et décalé davantage dans la lignée de sa série Platane que dans ses films antérieurs. La première heure est d'ailleurs un régal d'humour absurde, hein, servi par des dialogues excellents et une pléiade de comédiens inconnus, issus pour la plupart des séries télé, notamment Platane. Hein. Alors on retrouve bien sûr quelques archétypes amusants, quoi, comme la fille de Jean-Paul, une écervelée qui pense être dans un jeu de télé-réalité, ou alors la féministe engagée qui évoque le problème des règles, qui évidemment n'est pas un problème.
J'avais envie de vous parler d'une méthode pour vous passer des serviettes hygiéniques pendant les règles. Tu vas où, Victor ?
Hein ? Bah, j'ai entendu que c'était le cercle des femmes, moi je croyais que c'était l'atelier lâcher prise, donc...
Donc tu penses que les règles, ça concerne que les femmes ?
Non, j'ai pas dit ça, mais effectivement c'est plus un problème de femmes.
Ah, plutôt... c'est un problème ? Non, alors donc c'est bien que tu restes.
Oui, d'accord, c'est pas donc, ce que je voulais, voilà, c'est une expression, d'accord.
Je propose qu'on chante. Ouais.
J'aime mes règles, elles me connectent avec la lune. J'aime mes règles, quand elles sont brunes, je les assume.
Justement, je pratique déjà l'évacuation naturelle. Alors, c'est sûr, j'ai encore quelques coulées intempestives, mais j'aborde plus les règles du tout de la même manière.
Bah ouais.
Je me suis mise à les aimer. Je les attends. J'ai même hâte qu'elles arrivent.
C'est joli.
Comme moi pour mes selles.
Alors, ce n'est pas un extrait pris dans la durée, hein, c'est un petit montage, ça fait partie d'une des bandes-annonces, un teaser.
Mais ça donne une bonne idée de ce à quoi ressemble le film, de l'humour en fait. Hein. Et par les temps qui courent, hein, enfin, on prend vraiment un réel plaisir à suivre les aventures de cette bande de joyeux pantalons mous, c'est comme ça que moi je les appelle des fois, les néo-hippies, qui malgré tout devront affronter une horde de sauvages, hein, beaucoup moins conciliants qu'eux. Hein. La mise en scène légère et fluide, sans être géniale, est au diapason de cette excellente tranche de rire qui malheureusement s'essouffle un petit peu lors de la dernière demi-heure.
C'est souvent le problème des comédies.
C'est vraiment récurrent. Oui.
On va passer sans transition parce qu'il n'y a pas tellement de gaudrioles dans le film georgien que nous propose Marine, une famille heureuse.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors c'était sûrement une comédie.
Manana est professeure dans un lycée de Tbilissi. Elle a 52 ans et à côté de son travail, comme toutes les femmes georgiennes, elle occupe une place centrale dans son foyer, s'occupant des tâches ménagères, du bien-être de chacun, de ses enfants qui sont pourtant déjà grands, de son mari avec qui elle vit depuis 25 ans et de son envahissante mère qui vit avec eux. Le jour de son anniversaire, sans préavis, elle annonce à sa famille qu'elle les laisse pour prendre seule un appartement. Tous vivent cela comme un abandon, ne comprennent pas son geste, mais la laissent partir. Elle qui ne souhaite finalement qu'une chose, ne plus avoir à gérer l'intendance du foyer familial, cuisiner pour elle, boire du vin seule face à sa fenêtre et lire un livre en écoutant de la musique. Alors on parlait la semaine passée dans l'émission de Aurore avec Agnès Jaoui dans un rôle de quinquade tel qu'ils sont encore trop rares dans le cinéma français. Cette semaine, c'est le cinéma georgien qui s'intéresse à un personnage de femme bien décidée à reprendre sa vie en main et à la vivre pour elle selon ses envies. En dehors de la jolie surprise de retrouver sur nos écrans un film venu de Georgie, cinéma malheureusement peu vivace encore pour le moment, mais qui prend doucement son envol, le thème abordé est également très bien traité. Dans la société georgienne, encore traditionnelle, voire conservatrice, être une femme seule demeure quelque chose de hors norme, de marginal, car dans cette société très patriarcale, la femme n'en est pas moins le pilier central de la famille. En se détachant ainsi de son mari, de ses enfants, de sa mère, afin de ne vivre que pour elle, Manana accomplit une sorte de petite révolution. Tout en douceur, mais totalement incomprise par son entourage. Elle ne cherche ni à se justifier, ni à faire de son acte un acte militant. Elle souhaite juste exister par elle-même, tout en sachant que cela ébranle les bases mêmes de sa famille. Le titre « Une famille heureuse » se veut un écho à l'une des répliques du film « Il n'y a pas de famille sans problème ». Et finalement, peut-être que Manana, par l'abandon de ses responsabilités, aide sa famille à grandir.
Ça va,
ça va.
La mise en scène est aussi discrète et apaisée que son personnage, filmant les silences, les non-dits, son grande fantaisie, certes, mais avec une sobriété assumée qui sert le propos. Les plans du film, cadrés ni trop près ni trop loin, juste assez pour englober plusieurs personnages, démontrent la promiscuité, l'étouffement de ce foyer où doivent cohabiter plusieurs générations pour des questions culturelles, mais également d'argent. Malgré la nationalité du film, le propos est universel. On pense notamment à « Elle s'en va » de Emmanuel Berco avec Catherine Deneuve. « Une famille heureuse » est un beau film féministe qui juge une société, mais s'attache aussi à dépeindre une femme dans son intimité. C'est aussi une ode aux choses simples de la vie. Bref, c'est un joli film, inattendu, à voir.
Voilà, c'est une famille heureuse, film géorgien déjà sur les écrans, comme le film Alien, eh bien, qu'on va un peu célébrer à la manière d'un blind test.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi, c'est une blague ou quoi ?
Alors, Alien Covenant est effectivement sur les écrans, mais Alien, le huitième passager, eh bien, c'était déjà en 79. On peut considérer que ce Covenant est le deuxième...
entre Prometheus Alien, et
voilà,
Alien.
Voilà, entre ouais. Prometheus étant le premier. Et je l'ai intégré donc à ce blind test. Le principe est simple, on écoute un extrait et il faut identifier le film.
Vous m'avez envoyé au massacre et maintenant vous voulez me réexpédier là-bas ? Pas question, c'est plus mon problème.
Je peux finir ?
Non, laissez tomber.
Ripley, vous ne serez pas mêlé au combat, je garantis votre sécurité.
Vous savez, ces Marines coloniaux sont tout sauf des amateurs. Ils ont les armes les plus sophistiquées du marché. Avec eux, on peut être tranquille. Lieutenant, c'est pas vrai ?
Mais oui, mes hommes sont entraînés à ce genre de situation.
Alors allez-y sans moi, j'aime pas jouer aux soldats.
Alors c'était facile parce qu'il y avait quand même bien deux expressions clés, le retour et puis les Marines.
Les Marines, donc c'est le Alien 2 de James Cameron hein, qui avait fait un film à l'époque qui avait été très controversé. Et on disait que c'était un film bourrin, mais il ne faut pas oublier que Cameron était le scénariste aussi de Rambo 2 en 85.
Et oui, il ne l'avait pas choisi par hasard. Deuxième extrait.
Écoutez bien, sale petite fiotte. Encore une connerie comme ça, je démolis votre gueule de merde.
Pardon, j'avoue que je ne vous saisis guère.
Ce matin, à 7h, un message en langage codé est venu de la base. C'est la première fois, Clémence, qu'il arrive une communication d'un si haut niveau dans l'histoire de cette station à ma connaissance. Ils veulent que cette femme soit soignée comme une reine. Il paraît qu'elle est top priorité.
Pourquoi ?
Là, j'en sais rien. Mais pourquoi vous l'avez laissée sortir de l'infirmerie ? Cet accident qu'a eu Murphy, hein ? Voilà ce qui se passe lorsqu'un de ces lamentables crétins attrape une érection.
Je suis docteur, le geôlier, c'est vous.
Alors, là aussi, c'est plutôt facile parce que...
C'est Alien 3 de David Fincher.
Voilà, parce que là, on se retrouve donc dans le pénitencier lequel atterrit Ripley.
Et à mon avis, c'est un des plus sous-estimés de la saga des Aliens. Et notamment, il faut voir le montage de Fincher qu'il a fait lui-même ensuite.
Troisième extrait pour ce blind test spécial Alien.
Pas la peine d'essayer de lui faire changer d'avis si sa décision...
Je n'essaie pas de le faire changer d'avis, Dallas. Je veux juste que tu m'écoutes. Veux-tu m'écouter ? Dis-moi, comment peux-tu lui laisser ce genre de décision ?
Je me borne à commander cet appareil. Pour tout ce qui concerne le service scientifique, c'est H qui a le dernier mot.
Pourquoi a-t-il le dernier mot ?
Il a le dernier mot simplement parce que la compagnie veut qu'il l'ait.
Depuis quand est-ce un règlement en vigueur ?
Le seul règlement qui soit en vigueur, c'est de faire ce qu'ils veulent qu'on fasse.
Tu as déjà fait un voyage avec H avant celui-là ?
J'ai fait 5 voyages avec un autre officier scientifique. Il l'a remplacé par H 2 jours avant que nous ne quittions Tedus.
Je n'ai pas confiance en lui.
Moi, je n'ai confiance en personne.
Alors là aussi, petit indice qui arrive vers la fin. H, elle n'a pas confiance dans l'humanoïde.
Donc c'est le premier Alien de Ridley Scott.
Le huitième passager, sorti en 79, celui-ci, quatrième extrait.
Vous croyez que venir ici, c'était une belle perte de temps ?
Votre question semble impliquer que je sais ce que vous espériez accomplir en venant.
Ce qu'on voulait accomplir en venant, on voulait une réponse. Rencontrer nos créateurs. Savoir pourquoi ils nous ont créés, pour commencer...
Et moi, vos semblables m'ont créé, pourquoi ?
Bah, parce qu'on pouvait.
Imaginez un peu votre déception si votre créateur vous disait la même chose.
Alors, là aussi, normalement, c'est un peu facile.
C'est promoté aussi, on l'a vu, hein, parce que c'est pareil.
Ouais. Et donc, tout à l'heure, on parlait de H. Dans l'extrait précédent, donc déjà dans l'huitième passager, il y avait un problème avec l'humanoïde. Et là, c'est une discussion entre David, interprété par Michael Fassbinder, et donc un humain. Et voilà, c'est tout l'enjeu de la création. Hein. C'est déjà le cas dans Prometheus. Il y a un questionnement sur la création, qui est mon créateur. Et c'est aussi très présent dans Alien Covenant, dont nous avons déjà parlé dans la précédente émission. Dernier extrait, mais normalement c'est facile, par élimination.
Tu as un monstre au fond de toi. Ces types ont piraté la navette où tu étais. Ils ont vendu ton cryotube à cet homme-là. Il t'a mis un alien à l'intérieur du corps. Un spécimen très agressif. D'ici quelques heures, il va sortir en te crevant la cage thoracique. Et tu vas mourir. D'autres questions ?
Qui êtes-vous ?
Je suis la mère du monstre.
Moment de frousse quand même, hein.
Donc normalement, c'est Alien 4, la résurrection du français Jean-Pierre Jeunet.
Oui, qui arrive 200 ans, enfin les faits en tout cas qu'on raconte, puisqu'on réentend Ripley, arrive 200 ans après les événements d'Alien 3. Voilà. Et donc, c'est au niveau génétique qu'elle est recréée finalement.
Je ne m'en souvenais plus, ça faisait quelques années. Parce que le film est sorti en 1997. Donc ça fait
un peu vieux. Donc c'est l'occasion, hein, le dernier Alien Covenant, repris en main par
Ridley Scott. Ridley Scott,
voilà, c'est l'occasion. Donc,
qui a prévu d'en signer 5 autres. Il a prévu de faire une nouvelle saga. Alors peut-être qu'il va déléguer à la mise en scène, hein. Je lui souhaite parce qu'il a quand même 80 ans, Ridley Scott. Donc ce serait quand même peut-être temps d'y penser.
Voilà, ainsi s'achève ce blind test. On en retrouvera d'autres au fil des émissions.
C'est un état d'esprit.
Cinérama.
What else?
Chronique. Invité et nouvelles du 7e art.
Je t'en prie, cache ta joie.
Et on arrive maintenant à la partie interview de cette émission. On va écouter Chad Chenouga pour le film De toutes mes forces. Nassim est en première dans un grand lycée parisien, mais sa vie bascule quand sa mère toxicomane meurt. Seul, mineur, le voilà envoyé en banlieue dans un foyer. Il doit y retourner chaque soir après l'école, mais n'en dit rien à ses camarades ni à sa petite amie. L'adolescent qu'on sentait si à l'aise va devoir jouer une partition étrange, devoir se plier aux règles du foyer, se lier avec ses occupants tout en gardant le secret de sa nouvelle vie. Un grand écart impossible à faire, d'autant qu'il lui faudra aussi faire le deuil et tenter d'effacer la culpabilité à propos de la mort de sa mère. De toutes mes forces pourrait être l'histoire d'une solitude. Chad Chenouga nous dira que c'est un peu ça, si ce n'était pas non plus la description de deux univers hétérogènes, dont celui du foyer. L'élégance du réalisateur est de nous donner à voir les tourments de Nassim et de donner une vraie place aux personnages secondaires qui gravitent autour de lui. On écoute Chad Chenouga.
Regarde, je t'ai fait les courses. J'ai pris plein de trucs.
Tu reviens quand ?
Dimanche soir. Maman ? Maman ?
Ta mère, elle est au ciel. Tu sais très bien qu'on peut pas te prendre avec nous.
Je suis comment maintenant, t'habites où ?
T'es sous notre responsabilité, Nassim. Mais avant tout, on est là pour t'aider.
Chad Chenouga, vous êtes le réalisateur du film De toutes mes forces. C'est un film qui alors reprend votre histoire, mais pas totalement, c'est ça ?
C'est inspiré de mon histoire personnelle, puisque de la même façon que l'adolescent du film perd sa mère, est placé en foyer, il doit gérer deux vies, une vie à l'intérieur du foyer et une vie à l'extérieur du foyer, donc une vie en banlieue, alors qu'il était parisien avant, et il continue sa scolarité dans son lycée à Paris. Et donc il passe d'un monde à l'autre, et ces deux mondes ne doivent absolument pas se rencontrer. Voilà, c'est le parcours d'un adolescent, c'est le point de départ du film. Et ça, c'est très proche de ce que je connais.
La plupart des films qui traitent des foyers de jeunes, ce sont généralement alors des jeunes en difficulté, des délinquants. Là, vous n'avez pas du tout pris ce biais-là.
Bah oui, comme je vous disais, je me suis inspiré de mon histoire. Moi, je n'étais pas un délinquant, je n'ai jamais été un délinquant. J'ai vécu à Paris, dans le 9e arrondissement de Paris, quartier classe moyenne. Pour revenir au personnage qui s'inspire de moi... Moi, j'étais un peu, j'avais un petit côté dandy, un petit côté à me la péter, qui aimait bien la littérature. Et ça, à partir du moment où j'ai été placé en foyer, ça n'a pas changé pour autant. Et donc, c'est vrai que ça donne quelque chose d'assez particulier, hein, quelqu'un qui se retrouve en foyer et qui n'a pas envie d'être là et qui en plus ne ressemble pas à des petites frappes, à des, voilà, des petits caïds ou que sais-je. C'est quelque chose d'assez original. En tout cas, c'est ce qui a été pointé. Mais pour moi, ce n'est pas du tout original, puisque c'est le point de départ que j'avais envie de traiter.
Mais qu'est-ce que tu fous? Ça fait combien de temps que tu es enfermé, là? Vas-y, viens, on va travailler.
C'est bon, j'arrête.
T'arrêtes quoi?
J'arrête, c'est fini. Je t'aide plus, tu m'aides plus.
Je te préviens, Nassim, c'est maintenant. Jamais je te donnerai pas une deuxième chance.
Je m'en fous, j'arrête le lycée.
En fait, ça m'étonne pas, t'es un fainéant. Dès qu'il y a une difficulté, tu baisses les bras, t'as pas la niaque. Puis regarde-toi, là, tu fais crade. Si tu veux faire partie de leur monde à tes camarades de classe, là, donne-toi au moins les moyens.
C'est bon, lâche-moi, dégage.
Mais moi, je peux pas redoubler. Je te préviens, je reviendrai pas.
Casse-toi!
Ok, m'adresse plus la parole.
Il y a des jeunes qui n'ont pas du tout le même caractère que lui. On a vraiment l'impression qu'il est à part. C'est ça qui est très intéressant dans votre film. C'est qu'il y a des personnages secondaires et qui sont très importants. Il y a une galerie de personnages, en fait, et y compris dans ce foyer, avec notamment une fille qui veut absolument réussir ses études de médecine et qui compte là-dessus parce que, de toute façon, si elle n'arrive pas à réussir sa première année, eh bien, on ne l'aidera pas une seconde fois. Elle n'aura aucune chance. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de portraits. Il y a effectivement aussi des jeunes qui sont perdus. Enfin, vous ne faites pas l'économie de ça.
Le travail que j'ai pu faire avec Christine Payard, ma co-scénariste, c'était un travail d'investigation pour pas dire n'importe quoi sur les foyers aujourd'hui. Moi, j'étais placé à la DAS il y a très longtemps, ça a bien changé. À mon époque, les foyers n'étaient pas mixtes. Les conditions d'accueil des ados étaient assez différentes. Moi, j'étais pris en charge jusqu'à 24 ans, ce qui est pas mal. Aujourd'hui, c'est 18 ans. Et très, très exceptionnellement, je dis bien très, très exceptionnellement, personnellement, ça peut aller jusqu'à 21 ans. Je voulais fouiller vraiment les personnages. Ce qui ne veut pas dire que les personnages sont explicites, hein, et que je raconte leur background, tout ça, ça ne m'intéresse pas forcément, puisque je ne fais pas ou de la sociologie, ou... mais leur donner une vraie couleur et des vraies différences.
Attendez, je suis où, là? Je suis en prison?
T'aurais pas un plan pour se barrer d'ici, toi?
Si, peut-être. C'est pour aller voir une meuf, c'est ça?
Alors, on voit votre personnage Nassim qui est comme un funambule. Hein. On voit donc dans le milieu de son lycée et avec les parents de sa copine et de son copain. Il est très à l'aise dans cette famille. On a l'impression que c'est une famille même idéalisée, hein, où on parle librement, on s'amuse. Enfin voilà, tout est détendu. On le voit à l'intérieur du foyer, enfin un peu distant, mais capable de discuter avec tout le monde. Il a un petit côté caméléon, mais on voit aussi beaucoup de scènes où il se retrouve tout seul et confronté aussi à une forme de deuil. Qu'est-ce qu'il peut faire de la mort de cette mère?
Ouais, c'est vrai que pour moi, c'est un film sur la solitude. Hier, j'ai présenté le film à Marseille et il y a quelqu'un qui me disait « Ouais, mais les foyers, tout ça... » Mais moi, ce qui m'a vraiment touché dans le film, c'est comment un ado se retrouve seul. Et d'ailleurs, il pourrait se retrouver seul dans une pension ordinaire ou chez lui. Même, parfois, quand il n'y a pas beaucoup de communication au sein d'une famille, un ado peut vraiment ressentir ce sentiment de solitude. Là, il est là en plus, là, il n'a plus de famille, il se sent terriblement coupable de ne pas avoir été là quand sa mère est morte. Donc, ça traverse tout le film et il va falloir qu'il se débrouille avec ça, ce qui n'est pas évident. Et... il y a des gens qui ont été très marqués par ça, des gens qui ont vu le film, « Ah tiens, c'est prégnant, c'est quelque chose qui revient et qui m'intéresse. » Il se retrouve seul dans sa chambre avec des objets de sa mère. Il en fait quelque chose, il les utilise. Voilà, je ne vais pas déflorer le film, mais il y a plusieurs dimensions. C'est vrai qu'il y a, ces deux mondes où il essaye de frayer. C'est vrai que chez les bourgeois parisiens, entre guillemets, il se sent plutôt à l'aise et c'est vrai que c'est un monde auquel il aimerait appartenir. Et d'ailleurs, avant le décès de sa mère, il était déjà un peu un dissimulateur. Il faisait croire que tout allait bien chez lui et ça continue encore après. Et au foyer, dans un premier temps, il n'a pas envie d'être là et puis se sent supérieur. Il a un caractère un peu arrogant. Mais ça, cette forme de sentiment de supériorité est contrebalancée par le fait que il faut qu'il dépasse certaines choses. Et je voulais le raconter. C'est pas évident à raconter, mais avec le jeune interprète que j'ai, que je trouve super, j'ai l'impression que ça passe.
Bon, j'attends. Kevin, t'as rien à me dire?
Moi ?
Non, pas ce matin pour moi.
T'es pour rien, évidemment, dans la mort des poissons de José.
Quoi, ils sont morts ?
Oui, ils sont morts.
En plus, il y avait du poisson pané hier à la cantine. José s'est réservé au moins 4 fois en plus.
Oh, petit poisson, de petit poisson, c'est malin, on nous retourne. Non, je rigole. Je compatis un peu pour toi.
Bon, ben vous allez tous compatir, puisqu'il n'y a pas de coupable. Vous donnerez tous une partie de votre argent de poche à José.
Quoi ?
Pour qu'il se rachète des poissons.
Quoi, 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 parce que...
Ah, moi, j'ai rien fait, moi.
Ah, toi, t'as jamais rien fait. Eh ben, Kevin, la vie est injuste, et moi aussi, je suis injuste. Moi, et j'adore ça.
Chat Chenouga, ben, on va parler de Yolande Moreau. Vous l'avez choisie, et elle incarne la directrice, donc une certaine forme d'autorité. Ben, c'est pas forcément l'autorité de la prison, hein. C'est un personnage, finalement, dont on peut percevoir certaines fragilités par rapport à ce qu'elle représente.
Oui, c'est-à-dire qu'elle est duale. Souvent, Yolande, avec son accent comme ça, elle me dit « Ah, moi, je suis là pour faire tourner la baraque ». Quand les ados déconnent, bah, elle les reprend. Mais elle n'est pas que ça. Elle a un petit côté maternel malgré elle, même si quand on est à sa place, c'est-à-dire à la place d'une directrice, il faut arriver à garder une certaine distance. Mais après, c'est plus fort que nous. Voilà. Et donc, et ça, pour les travailleurs sociaux en général, parfois, on ne travaille pas de manière orthodoxe. C'est-à-dire, je m'englobe pas, hein, parce que c'est pas mon métier, mais on est dans l'empathie, quoi. Et c'est bien, d'ailleurs.
Ta maman est décédée parce qu'elle prenait trop de médicaments.
Vous avez du mal à dire le mot. Le mot suicide. Maman, t'es la part de moi que je vais emporter. La part de nous qui ne va pas mourir.
Si t'étais moins jeune et moins con, je t'épouserais.
C'était Chad Chenouga, donc, pour le film De toutes mes forces, actuellement sur les écrans.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement ?
Oui. Cinérama.
Le monde devient philosophique.
Si tu avais hérité du royaume de ton père, au lieu d'être élevé dans un bordel.
Quelle idée a bien pu piquer les producteurs d'engager Guy Ritchie pour une relecture forcément postmoderne de la légende du roi Arthur ? L'ex-petit génie au trop acclamé se rêvant il y a une quinzaine d'années comme le Tarantino british avec Snatch et Arnaque, Crime et Botanique, est pourtant, contre toute attente, devenu en trois films un faiseur brillant, recyclant des univers connus dans un style pop et clinquant. Ces deux Sherlock Holmes, ainsi que le très fan agent très spéciaux, redonnaient du crédit à un cinéaste surfait, mais qui a su prouver son professionnalisme et sa réelle appropriation de mythes populaires. Mais adapter la légende d'Excalibur, ce n'est quand même pas la même chose. Hein. Cette relecture des célèbres écrits demande quand même un minimum de connaissances, de passion et aussi de respect. Nombreux les auteurs qui ont échoué, il semble qu'après le magnifique Excalibur de John Boorman, c'est la référence en la matière, hein, le défi semble un peu suicidaire. Déjà il y a 10 ans, Antoine Fuqua signe un pitoyable roi Arthur, hein, étriqué et peu inspiré avec Clive Owen. Eh bien, Guy Ritchie réussit l'exploit de faire encore pire. C'est un euphémisme. Hein. L'efficacité racoleuse du cinéaste est à son comble, dénaturant l'histoire avec un jemanfoutisme désarmant. Tous les tics visuels du cinéaste se télescopent en un maelstrom d'images indigestes, prétexte à une série de batailles et scènes d'action illisibles. Au bout de 20 minutes, on a presque la nausée devant ce festival de n'importe quoi, où les plans s'enchaînent sans une seule idée de mise en scène. Alors ce n'est plus Excalibur, mais Excaliburne, un film de KPDP, lourd comme le métal gonflé à la testostérone. Alors, je ne vais pas vous faire l'injure de vous raconter l'histoire, quoiqu'ici, elle est vraiment réduite à sa plus simple expression ou représentation, hein, soit Arthur qui va combattre le tyran Vortigern, qui a dérobé sa couronne et assassiné ses parents. Même la séquence mythique de l'épée retirée du rocher est complètement ratée, nous rendant alors presque nostalgique du dessin animé de Walt Disney, Merlin l'Enchanteur. D'ailleurs, Merlin, on s'en tape, il n'apparaît pas, on le mentionne une fois dans le film. À la place, on a droit à des mammouths géants, à un serpent aussi géant, sorti tout droit d'une série Z, à un Arthur au look deepster, et à un méchant incarné par un Jude Law aux abonnés absents. L'esthétique jeu vidéo plombe définitivement un scénario extirpé de toute sa richesse, de tout son mysticisme, de sa poésie jazz, de ses implications mythologiques. On est bien en 2017, face à un blockbuster de plus, informe et brutal, monté comme un clip, pas un plan qui dure plus de 2 secondes, saturé donc, ce que je disais, de plans hyper courts, d'effets d'accélérés, des ralentis, des arrêts sur image jusqu'à écœurement. Et comme d'habitude, les scènes d'action à coup d'effets numériques d'une laideur pharaonique transforme le tout en une bouillie visuelle d'une laideur abyssale à faire passer, je dirais, les films, par exemple, de Zack Snyder ou Michael Bay pour du Tarkovsky. Alors, la légende d'Excalibur, hein, concours sans problème pour devenir, je dirais, l'un des navets de l'année. Sinon, le plus mauvais film que là j'ai pu voir depuis janvier.
Vous faites erreur, Majesté. J'ai jamais eu aucun pouvoir, ni aucune envie d'en obtenir.
J'aimerais te croire, mais vu ta personnalité, cela me paraît très hasardeux.
Voyez, l'homme qui tira l'épée du rocher.
C'est Vortigern qui a assassiné ton père. Mais sans tenir compte d'une chose, ce que tu peux faire avec cette épée.
Je vais le tuer.
On vous avait prévenu, hein, il y aurait du bon et du moins bon. Et bien là, nous terminions avec le moins bon.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui?
Tu peux pas contrôler qui est qui.
Quoi, qui est qui?
Bah quoi, qui est qui, quoi?
Eh bien, qu'y a-t-il?
Auriez-vous oublié que nous partons?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
Alors, chers auditeurs, Cannes, le festival commence aujourd'hui. Une partie de l'équipe y va, l'autre partie reste. C'est toi, Manu, mais tu auras vu quand même des films pour la semaine prochaine.
Alors oui, je vais certainement voir un manga qui s'appelle Sword Art Online Movie. Et puis peut-être, certainement d'ailleurs, le nouveau Pirates des Caraïbes.
À bientôt.